Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
22h32 à Paris, minuit 32 à Doha. On est là, Daniel Riolo, Stéphane Guy est là, et donc deux supporters de l'équipe de France dans notre studio du Qatar, Fouzia et Guillaume qui sont là. Ils sont venus accompagner. D'ailleurs, Guillaume, tu es venu avec des potes là. Vous traînez tous en bande en fait ici au Qatar entre supporters français.
Ouais, c'est ça. Ouais, on fait des belles rencontres de gens qui sont là de toute la France et voilà.
Et qu'est-ce que tu fous toute la journée? Ça fait deux semaines que t'es là-bas déjà.
Eh ben écoute, depuis hier, on a enfin commencé les visites, puisque.
Qu'est-ce que t'as fait jusque là?
Les matchs et puis beaucoup de soirées, de fêtes. Donc
j'ai vu la tronche qu'ils ont. Ils dorment pas beaucoup, je crois.
Ouais, c'est ça. En fait, okay. En fait, déjà les matinées n'existent pas depuis 15 jours.
Ouais.
Donc les journées commencent en général entre midi et 15 heures.
Très bien. C'est le rythme qatari en fait.
C'est exactement ça, ouais.
Foot corner, j'ai oublié de faire l'annonce tout à l'heure, je la fais maintenant, vous le savez, on vous offre des maillots de foot tous les soirs dans l'after, ce soir un maillot du Maroc. Si vous voulez gagner ce maillot, vous envoyez foot par SMS au 732-16, foot par SMS au 732-16. Polo Breitner est-il parmi nous? Polo, bonsoir.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Voilà, Polo c'est le gars qui est à l'heure, c'est les Allemands, c'est
bonsoir,
carré.
Bonsoir Polo.
Voilà, parce que même en avance, parce que Julien Laurence, il devait être là, mais on l'attend, il arrivera tout à l'heure, donc on fera l'Angleterre un peu plus tard. Mais on voulait faire de l'Allemagne aussi parce qu'il y a pas mal d'infos qui sortent concernant Hansi Flick aujourd'hui. Polo, il faut qu'on fasse le point avec toi.
C'est très compliqué.
Alors oui, c'est pas très clair en fait. Parce qu'on apprend aujourd'hui qu'il va rester, mais bon, il y a débat. Donc je sais pas. Raconte-nous ce qui se passe là après cette déroute allemande.
Alors, il y a plusieurs choses. Si je vous fais un panel global, vous avez une fédération qui est en crise depuis 2015, et notamment depuis la révélation du Spiegel sur un fonds qui aurait permis d'alimenter, un fonds qui est à peu près 10 millions de francs suisses à l'époque, pour alimenter notamment l'achat de la Coupe du Monde 2006, donc le fameux compte d'été. Était juste un mythe et devient une légende urbaine en Allemagne. Donc il y a énormément de problèmes au sein de la fédération. Vous avez quatre présidents qui se succèdent depuis 2019. Vous avez une ligue qui est en crise aussi, puisque Madame Hoffen n'a pas eu vu son contrat arrêté après moins d'un an, et donc on a un duo qui a pris la place, et donc on a le sportif où se mêle beaucoup de politique qui a fait 2018 dramatique, un Euro 2021 dramatique et une Coupe du Monde ratée en 2022. Donc l'ensemble du football allemand ne va pas bien. Je rajoute que la fédération a sorti des chiffres comptables dramatiques en 2021 avec 31 millions de pertes d'euros. Donc tout ça fait que, si tu veux, que c'est en train d'exploser dans tous les sens. Et à la rigueur, le fait qu'Hansi Flick reste à la tête de la Nationalmannschaft...
Puisqu'aujourd'hui, il a été officiellement maintenu.
Alors c'est extraordinaire ce qui s'est passé, puisqu'il y avait depuis plusieurs jours, en fait, on voulait absolument la tête d'Oliver Bierhoff qui était en place depuis 18 ans. Ils l'ont eu. Hansi Flick a fait une phrase. En fait, le grand gagnant de la journée, c'est Hansi Flick. Il avait fait une phrase que j'avais entendue, et c'est pour ça que je m'étais permis de t'envoyer un petit SMS en pensant qu'Hansi Flick allait démissionner, ou tout du moins allait négocier son départ, en disant qu'il ne voyait personne en ce moment capable de remplacer Oliver Bierhoff. Donc c'est sympa, celui qui prendra la place d'Oliver Bierhoff dans quelques mois. La grande leçon en fait d'aujourd'hui à la fédération, après une crise, comme on dit, qui a duré deux heures et des discussions, c'est que Hansi Flick va rester pour faire jusqu'à la fin de son contrat en 2024 à la tête de la sélection allemande, et que celui...
Donc avec l'euro en Allemagne, il faut le rappeler.
Avec l'euro en Allemagne, et en fait, les Allemands sont très pris par le temps. C'est ça en fait la véritable leçon, et ça prouve une fois de plus que les Allemands...
Est-ce qu'il y a un remplaçant naturel qui aurait pu s'imposer, enfin tu vois, un gars sur le marché?
Alors, non, mais l'histoire de Tourelle... Non, ouais, alors il y a l'histoire de l'homme, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a différentes personnes en Allemagne, dont Didier Hamann, qui appelait à avoir enfin un sélectionneur étranger à la tête de la sélection allemande, ce qui est complètement fou quand on
parle de l'histoire. Ah ouais, ça c'est fou quand même, l'histoire de l'Allemagne.
Non, mais tout le monde, on est en Allemagne, c'est-à-dire que là en ce moment, tout le monde sort du bois, tout le monde règle ses comptes. Il y a une ancienne, la génération.
Oui, Grèce, hein, si tu veux, il est pas très loin. C'est le plus allemand des.
Voilà. Il y a que de ça, si tu veux. Il y a que de ça. Il y a ce que moi j'appelle la génération frustrée, c'est-à-dire les anciens comme Michael Ballack, comme Stefan Effenberg, qui sont poussés par certains, par des lobbies, pour prendre de la place à la fédération. Je vous rappelle la sortie médiatique de Ballack sur la question de la virilité du football allemand et de la politique, etc.
Une sacrée sortie quand même.
Non, mais c'est une thématique.
Peut-être j'étais pas dans l'after, j'ai raté ça, mais j'étais étonné du peu d'écho que t'en as fait.
C'est pas moi déjà, faudrait peut-être qu'RMC m'appelle plutôt, ça serait déjà plus intéressant. Mais la deuxième chose,
Non mais tu peux me, je veux bien que tu fasses un dégagement de deux minutes non. Sur la phrase de Ballack, parce que franchement elle m'a plu.
Il est bon, non, mais pour que l'émission soit intéressante, faut l'appeler. Mais tu as raison, on t'appelle.
Bah, je suis désolé, Gilbert. Moi depuis que l'Allemagne a pas été éliminée, vous m'avez pas appelé. Donc voilà, c'est
profites-en, Polo. Moi j'ai envie.
Non, mais je dis ça. Vous avez la génération 2014 emmenée par Philippe Lahm et Sami Khedira qui veut prendre le pouvoir. D'ailleurs, Philippe Lahm, vous savez qu'il est président de l'organisation de l'Euro 2024 et on lui prête de vouloir prendre la présidence de la fédération allemande après l'Euro 2024. Donc vous avez en fait que de la politique et vous avez des personnes qui poussent différents noms. Vous avez peut-être entendu le cas de Freddy Bobic qui est le favori. Lui, il a été très surpris que son nom sorte comme par hasard. Donc l'actuel manager du Hertha Berlin, l'ancien champion d'Europe de 1996, qui en fait serait celui qui pourrait remplacer Oliver Bierhoff, Freddy Bobic, très proche d'un certain Thomas Tuchel, comme par hasard, sauf que par qui est poussé Freddy Bobic, c'est par Hans-Joachim Watzke, le patron du Borussia Dortmund, et vous savez qu'entre Thomas Tuchel et le Borussia Dortmund, ça s'est pas fini d'une façon extrêmement sympathique. Donc en fait, tout ça en fait est un jeu de dupes dans tous les sens. Il y a un grand gagnant qui s'appelle Hansi Flick, évidemment parce qu'il est maintenu en poste aussi pour des raisons de timing, qui aujourd'hui, le choix de remplacer Oliver Bierhoff a été repoussé au calendrier grec parce qu'on n'a pas le temps. La fédération a décidé, comme d'habitude, de faire un audit interne pour voir ce qui va pas, etc. Mais je peux vous assurer que c'est un grand bazar aujourd'hui parce que les révélations aussi sur ce qui s'est passé au Qatar avec la sélection sont en train de sortir.
Et c'est quoi les révélations ? On entend quoi, Polo ? Dis-moi.
Bon, il y a la question de la politique, évidemment, du brassard et de main devant la bouche. Là, non pas, comme l'a repris RMC d'ailleurs, mon cher Gilbert, lié à ce qu'a sorti Sportbild. Ça fait une semaine qu'on le sait en Allemagne, notamment via les travaux de ARD, le média public de allemand, que en fait, l'histoire de la main devant la bouche. Alors déjà, il n'y avait pas... on en avait parlé un peu avec Stéphane Guy. J'ai jamais connu une communauté où tout le monde était d'accord sur tout. Donc quand je vois 26 joueurs qui font tous la même chose en même temps, soit ça a été orchestré, soit moi il y a des gens qui ont le droit d'avoir des dissonances par rapport aux messages à envoyer dans le monde. Si on doit d'ailleurs les envoyer d'ailleurs. Ça c'est un autre débat. En fait, on sait que Manuel Neuer, le capitaine de l'équipe à 36 ans, et Goretzka poussaient pour mettre la main devant la bouche, vous savez. Le message après le match, avant le match contre le Japon. On sait qu'à l'intérieur de cette beaucoup de joueurs, il y a eu des crises en fait, il y a eu des réunions entre différents joueurs, en gros des cadres comme Rudiger, comme Gundogan, pardon, qui n'étaient pas forcément d'accord avec ça. Et d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est aujourd'hui, mais il y a un joueur qui aurait dit moi je ne suis pas là pour faire de la politique, je suis juste là pour jouer au football. Donc il y a des dissensions très fortes à ce niveau-là, au niveau de la sélection. La fédération a couvert tout ça, évidemment. La deuxième chose qui me semble importante...
C'est pas le meilleur truc pour préparer le premier match de la Coupe du Monde, quoi.
C'est pas le meilleur truc. Et comme par hasard, comme il y a eu la défaite sur le Japon, vous avez eu juste après Kai Havertz, que je suis Bodor, mais ça encore une fois c'est spéculatif, qu'il n'était pas trop pour l'histoire du brassard et de la main devant la bouche, qui a dit bon maintenant la politique c'est fini, on se focalise sur le football à 100%. Comme par hasard, Kai Havertz est l'un des éliminés entre guillemets sur les matchs par la suite. Donc vient se rajouter évidemment l'échec sportif. analysé d'une façon à la fois très intéressante par certains médias allemands et d'autres complètement à la ramasse en disant il faut la tête de flic, il faut la tête de flic. Non, moi je développe.
Là, je te coupe justement parce que là c'est pas RMC qui donne l'info, c'est Bild qui dit que Havertz, Gundogan et Ter Stegen accusent flic d'avoir favorisé les mecs du Bayern.
Ouais, alors Ter Stegen,
Müller, Goretzka et Neuer qu'ils estiment pas au niveau.
Ter Stegen.
Bien de continuer avec lui là.
Non, mais attends, déjà Ter Stegen qui se plaint de pas être numéro 1, c'est pas la nouvelle du siècle.
Ça
fait 10 ans. Donc ça c'est pas nouveau. Gundogan, alors en fait c'est une forme d'hypocrisie parce que l'histoire, en fait, en Allemagne, on est en train de faire le procès du bloc Bayern. Vous savez, le fait d'avoir les joueurs du Bayern qui sont en avance, en fait, ce qui avait permis à Hansi Flick de gagner la Ligue des Champions 2020 au passage. Tout le monde était d'accord pour ça et d'un seul coup, tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, c'est quand même, c'est ridicule.
Quand ça d'autant foire, plus... forcément.
Ben oui, non, mais c'est tout le monde ridicule. C'est-à-dire que la presse allemande est en train de changer, de tourner sa veste d'une façon assez violente. Enfin, un grand classique en Allemagne. Et la deuxième chose, c'est que critiquer le bloc Bayern en disant que Gundogan n'a pas sa place, etc., c'est faux. Il a même pas utilisé le bloc Bayern. Le bloc Bayern en Allemagne, c'est Goretzka Kimmich. Et en fait, ce qui vous rappelez-vous contre le Costa Rica, il a décalé Kimmich au poste d'arrière droit en mettant Gundogan. Donc tout ça est complètement faux. Le fait, la transition entre
ils
Thomas Müller.
Ils ont gagné un goal match quand même, parce qu'on a un peu oublié.
Ils ont gagné.
Le Costa Rica.
Non, mais l'Allemagne, c'est beaucoup ce premier match dans ce contexte bouillant, parce que derrière, ils font un bon match contre l'Espagne et ils battent le Costa Rica. Ils sortent avec 4 points. Tu vois, c'est.
Donc tu penses que c'est la main devant la bouche qui a éliminé l'Allemagne.
Je pense que la préparation de ce match a été complètement foireuse. La préparation les a comme
alors vous avez du Wenger qui dit le Danemark et l'Allemagne se sont trop focalisés sur autre chose que le foot.
Mais je pense que l'Allemagne ça les a
Wenger c'est le petit télégraphiste d'Infantino aujourd'hui, malheureusement ce grand entraîneur, cet homme de grande qualité qui est devenu un petit télégraphiste avec l'âge, c'est quand même effrayant.
D'accord, mais Stéphane, ce qui est important, celui, et pourtant je suis pas d'accord sur
que l'ambiance devait pas être top dans le vestiaire quand même.
Bien sûr, j'écoute avec attention ce que dit
ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Philippe Lahm, il dit qu'on soit d'accord pour la main devant la bouche, le brassard, etc. Alors on est pour, on est contre, c'est autre chose. Le problème, c'est qu'il faut le prévoir. Et très clairement, la fédération n'a pas prévu ces mouvements de joueurs, n'était pas d'accord. Le fait que différents joueurs soient pas ok pour le faire, ils soient forcés un petit peu, ils se retournent. Le problème, c'est que tout ça est arrivé, et c'est Philippe Lahm, c'est ce qu'il dit. Il dit... c'est inadmissible, on s'est fait avoir par la FIFA d'une façon extrêmement simple parce qu'elle est jouée sur du billard avec l'histoire du brassard, parce qu'évidemment l'histoire du règlement c'est quand même quelque chose qui est important. Tu fais pas ce que tu veux avec un brassard, sinon moi je mets Sylvie Vartan à Saint-Etienne, la prochaine fois je porte un brassard. C'est, on fait ce qu'on veut avec ça.
Évidemment.
Pardon ?
Évidemment, t'as raison.
On fait ce qu'on veut. Moi, l'histoire du Cameroun, par exemple, il y a quelques années, vous vous rappelez l'histoire du maillot sans manches. Il était extraordinaire, ce maillot. Je le trouvais super beau. Mais tu peux pas. T'as un règlement. Tu fais pas ce que tu veux. Donc là, ils sont arrivés comme ça. La fédération allemande, ouais, on va mettre un brassard. Tac, 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 tac. Il y a d'autres pays qui ont voulu le faire. Mais la FIFA s'est amusée avec ça, avec le règlement.
C'est vrai.
La FIFA est beaucoup plus aujourd'hui tolérante par rapport à des manifestations politiques sur les terrains même de la Coupe du Monde. Visiblement, là, ça la dérange plus.
Non mais je dis pas que
c'est des histoires, c'est des questions, tu le sais, enfin mieux que moi et Daniel aussi, très très complexe. Après, ce qui m'intéresse dans ce que tu racontes, c'est le lien entre ça et le sportif. Et effectivement, est-ce que c'est ça qui a eu raison de la sélection allemande qui avait déjà raté son Euro et raté la Coupe du Monde d'avant?
Non mais en
il faut pas dévaloriser, si je peux me permettre, le parcours du Japon. Moi, je trouve qu'on puisque en fait l'entrée en jeu, je suis d'accord avec ce que vous dites, le fait d'avoir pris ces positions politiques, ça met toute la lumière sur l'Allemagne. Ils ont quand même pointé du doigt le pays hôte, donc l'entrée en compétition, elle est vraiment primordiale. Et ils se retrouvent non seulement avec peut-être des problèmes de vestiaire, etc., ce que disait le contexte, on va dire de leur sélection, le contexte géopolitique interne, les dissensions internes. Mais après, il y a le match aussi, et ils se retrouvent face à des Japonais
On ne peut pas à longueur de temps parler de l'importance d'une osmose dans le vestiaire, féliciter Didier Deschamps pour les choix qu'il fait à ne pas prendre un tel et un tel s'il sent que ça peut ne pas marcher, pour ne pas s'intéresser à au-delà. Alors, on n'est pas en train de parler de l'hypocrisie générale et mondiale qui peut exister dans les prises de position des uns des autres. Ça, on est tous d'accord là-dessus, et notamment sur l'hypocrisie plus que mondiale et des positions de la FIFA. Juste que un pays qui arrive à la Coupe du Monde dans un contexte qui était en Allemagne peut-être encore plus polémique qu'en France, avec des gens dans le vestiaire qui ont des idées différentes, qui finissent par s'engueuler entre le poids du Bayern, le ceci, le cela, c'est pas le meilleur moyen de rentrer dans une compète. Ça peut être anecdotique de rater son premier match si tu peux te rattraper. Et l'Allemagne, je pense, s'est rattrapée, mais ça n'a pas suffi.
Mais en plus,
ça n'a pas suffi, malheureusement.
Mot de la fin pour Stéphane.
Vas-y. Non, mais en trois secondes, pour dire que ce match contre le Japon, pour l'avoir vu, et c'est, l'Allemagne doit mener 2-3-0. C'est-à-dire que c'est pas un match raté par les Allemands, quoi. C'est ça qui est. Et, oui. Mais après, c'est l'histoire du foot, hein. Tu les mets pas, tu te fais retourner, etc.
Ce que tu dis, Stéphane, c'est la défense de Oliver Bierhoff, parce que
je suis très bierhoffien, moi, tu sais.
Mais c'est Bierhoff qui, parce que tu l'écoutes, et ce qu'il dit est exact. Si tu l'écoutes au niveau des statistiques, les Allemands sont champions du monde. En 2014, ils auraient dû être champions du monde. En 2018 et en 2022. La réalité, c'est qu'ils sont sortis en 2018 et en 2022. Ça, c'est un autre chapitre. Ouais, j'espère qu'on aura le temps d'en parler. Mais si je peux t'assurer que c'est extraordinaire ce qui se passe en Allemagne.
Non, mais j'espère qu'on aura l'occasion.
Moi, j'aurais aimé juste, si Paulo doit dire un dernier mot, juste son avis, parce qu'il l'a pas donné. Est-ce que Flick reste ou pas? Tu étais dans quel camp? Toi, tu penses qu'il faut un coup de balai, là-bas, c'est comment il s'appelle, le manager, là, le poste de Bierhoff qui est très important.
Secrétaire général.
Voilà. Un autre Bierhoff avec un tout nouveau sélectionneur. Quel est ton point de vue? Quel binôme t'aurais voulu voir finalement, toi?
À cause des 18 mois avant l'Euro 2024, je pense qu'on ne peut pas changer. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que l'Allemagne, et notamment Hansi Flick, est dans une psyché narcissique. Je développerai ce contexte dans les prochains jours.
Teasing.
Merci Paulo, on le fera.
Voilà, ciao, les gars.
Ciao, bonne soirée. Dans un instant, Julien Laurence, l'Angleterre au programme. Attention, Julien va faire peur à la France.